Bonjour à tous.
Je ne fais que revivre le même jour encore et encore, encore et encore. Et je ne fais que revivre le même jour encore et encore. Et je ne fais que revivre le même jour encore. Je ne fais que revivre le même jour encore. Je ne fais que revivre le même jour encore.
Sur les nouveaux chemins où toute cette semaine nous cherchons à atteindre la répétition, ce qui se répète toujours sous une nouvelle forme, comme le dit Kierkegaard, ce qui nous met à l'épreuve infinie du même, comme le dit Nietzsche, ce qui répète ce qui s'est passé et ce qui va avoir lieu, cela c'est comme le dit Deleuze. Et puis aussi, ce qui se répète, ce qui se fredonne, voué à la répétition mais toujours par touche, de l'informe écho au son parfait, cela c'est la musique et c'est maintenant. Et toute l'équipe des Nouveaux Chemins se voue elle aussi à répéter pour créer Colomba Grossi, Marianne Chassor, David Pargamin, Antoine Ravon, Lucie Tardy, sans oublier bien sûr Adèle Van Rett, avec à la lecture des textes Georges Kless, à la réalisation Mydia Portis-Guérin et à la prise de son aujourd'hui Jean-Guilain Meige.
Fasoletico a quella corda, la deve tagliare con archetto, secare! Possibile una tomata a tutti adesso? Voi avete capito cosa siete qui per fare? Parlo a musicisti, spero, no? Voglio sentire, suono, combatto! Da capo!
Musique, seul art qui fixe les changements. Cette toute petite phrase de Paul Valéry, il ne faudrait pas hésiter à la renverser, car la musique semble être aussi le seul art qui change ce qui est déjà fixé. À cela, Valéry ajoute qu'elle est une série de ponts jetés par le temps, ce qu'on pourrait tout aussi bien renverser, tant la musique est elle-même ce temps qui jette des séries de ponts. Et puis enfin, Valéry dit qu'elle est le plus puissant engin non chimique à exciter le possible pur. Là encore, renversons. N'est-elle pas aussi ce qui est excité par le possible pur ? À l'image du chef d'orchestre qui chamboule tout pendant les répétitions, qui jette des séries de ponts entre les interprètes et entre les interprétations passées et à venir, qui se laisse pourtant rattraper par les possibles qu'il a sous les oreilles, ces possibles produits actualisés de concert par les instruments qui s'animent, la musique semble être condamnée à se répéter pour créer, condamnée à tâtonner, à reprendre, à se reprendre, à nous reprendre, dans un sens puis dans un autre, d'avant en arrière. Mais comment dire en mots sans se répéter, sans se condamner soi-même à la répétition parfois sans relief du langage, ce que la musique répète quant à elle sans ne jamais s'épuiser ? Du possible pur, des séries de ponts, des changements qui se fixent. À elle seule, la musique ne rend-elle pas l'infinie signification de la répétition ? Ne fait-elle pas de la condamnation de la répétition la passion qui nous entête ? Pour parler, mais aussi jouer de cette répétition musicale, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Carole Beffa, maître de conférence à l'ENS, musicien et compositeur. Carole Beffa, qui pendant tout cet échange sera au piano du studio 108 de Radio France pour mettre en musique ce que l'on a tenté de dire toute cette semaine. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour. Les mélodies les plus parfaites, bien souvent, ont pour caractéristique de sonner comme des citations. Des citations qui viendraient non pas d'autres œuvres musicales, mais d'un langage musical obscur dont l'oreille ne perçoit que de simples fragments qu'elle ne comprend même pas tout à fait, mais qui s'imposent à elle avec force et avec l'autorité la plus marquée. L'exemple le plus frappant est en même temps l'un des plus connus. Il s'agit du refrain en majeur de la Habanera de Carmen « L'amour est enfant de Bohème ». Véritable citation originelle que chacun perçoit comme une réminiscence dès la première écoute. La banalité ne trouve sa légitimation que dans la profondeur d'une telle réminiscence. Il y a longtemps que notre musique, fruit d'une production solitaire, a dû désapprendre à évoquer de telles citations. Les innombrables chansons à la mode dont le couplet, avec sa mélodie informe, relate la préhistoire de leur propre refrain, cherchent ainsi à rendre ce dernier citable en le faisant déjà apparaître lui-même comme une citation. Une citation du monde de la banalité, une citation dont la propre banalité en recouvre une plus profonde, celle d'images archétypales. On serait tenté de croire que c'est là la raison même pour laquelle on a inventé le refrain.
Carole Beffa, vous avez fait écho au texte qu'on a entendu interprété par le comédien Georges Clès. C'était un extrait de « Quasi una fantasia » de Théodore Adorno qui date de 1963. Et cet écho que vous avez effectué à la musique semble justement faire écho à ce que dit Adorno sur la musique qui procède par citation. Est-ce qu'une bonne manière de parler de la musique, c'est de dire que son essence est d'abord répétitive ?
Oui, ce qui est assez amusant, c'est que Adorno, dont on sent qu'il constate quelque chose mais qu'il n'est pas forcément d'accord avec on va dire le sens qu'a pris la musique dont il parle, Adorno est souvent associé à une école, celle du sérialisme. Il était lui-même l'élève de Berg, une école qui pendant très longtemps a voulu au contraire refuser la répétition. Et ici, on le voit faisant référence à des musiques savantes, dans le cas de Carmen, populaires, dans le cas de celle dont il parle à la toute fin, qui, au contraire, jouaient sur la répétition dans plusieurs sens. Dans le cas de Carmen, lui imagine, et c'est une assez belle idée, que ce thème, qui est en réalité un tube, s'il a ce caractère tubesque, probablement, c'est parce que il semble provenir du très fond de notre âme. C'est comme si on l'avait toujours connu. C'est pour ça que il l'envisage comme une citation imaginaire en réalité, hein, parce que c'est effectivement une création, une véritable création de la part de Bizet. Mais il fait référence aussi à cet autre principe de la musique qui est l'idée de ritournelle, de retour, de reprise, et qui là, pour le coup, dit-il, est fondamental dans quantité de musique populaire. Donc il y a cette phrase qui est intéressante dans ce qu'il dit: il y a longtemps que notre musique, fruit d'une production solitaire, a dû désapprendre à évoquer de telles citations. Comme s'il devait y avoir un effort à faire pour que on ne soit pas trop influencé par ce qui, en tant que musique populaire, pourrait avoir tendance, parce que c'est une musique parfois entêtante, parce que c'est une musique qui, encore une fois, semble ancestrale, venir du tréfonds de notre âme, une musique qui pourrait avoir tendance à saturer notre imaginaire et à nous empêcher de créer d'une façon absolue. Alors, il y a aussi, bien sûr, un clin d'œil probablement à la posture romantique par excellence du créateur solitaire dans sa tour d'ivoire, ou en tout cas d'un créateur qui pourrait ne pas du tout avoir à se servir de thèmes qu'il connaît, c'est-à-dire quelqu'un qui serait vraiment là, dans l'absolu, en lui-même, et totalement indépendant, totalement autonome. Et je pense que c'est probablement un tout petit peu utopique.
Oui, déjà, il faut abandonner en fait cette idée d'un créateur, d'un compositeur tout-puissant dans une tour d'ivoire ex nihilo. Néanmoins, c'est intéressant que vous ayez souligné cette phrase, Carole Beffa, car cette idée de désapprendre est très intéressante, parce que dans l'apprentissage de la musique, on procède bien par répétition. C'est-à-dire qu'on emmagasine un certain nombre de certaines couches de savoir, de pratiques qu'on incorpore, qui deviennent des automatismes, des réflexes. Comment on peut désapprendre, dépasser en fait cet apprentissage pour tout en continuant en fait à répéter, tout en ne cédant pas, tout en ne tombant pas dans l'illusion d'un créateur coupé de tout. Comment en fait à la fois se servir de ce qu'on a appris tout en l'ayant oublié?
C'est une vraie question, et c'est d'ailleurs une question qui rejoint une autre problématique, qui est celle de comment apprendre à composer. Comment apprendre à entendre, bien sûr, comment apprendre à composer. Comment apprendre à entendre, parce que la répétition, bien sûr, est fondamentale dans cette espèce de pédagogie de la musique. Lorsque vous faites entendre une dictée musicale, ce qui est un exercice très courant, vous entendez un fragment une fois, puis éventuellement une deuxième fois, et la troisième fois, vous allez enchaîner, passer au fragment suivant. Donc le principe de la répétition est évidemment fondamental. La répétition, c'est aussi, dans toute forme de pédagogie, alors là, pas simplement en musique, pense-t-on une façon de faire entrer les choses, tout simplement dans ce sens-là. Les deux sens, au moins, parce que évidemment répétition aurait plus que deux acceptions seulement, mais les deux sens de répétition auxquels on songe, c'est-à-dire la répétition qui était celle de la prova d'orchestre, le fait d'avoir une répétition d'orchestre, répétition en musique, actuellement on en a une dans cette maison avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, je crois, et puis la répétition d'un fragment musical, qu'elle s'appelle reprise, qu'elle s'appelle ritournelle, qu'elle s'appelle répétition, tout simplement réexposition parfois, sens tout à fait différent, mais on voit que les deux sont évidemment liés dans le domaine de l'enseignement et de la pédagogie.
La musique, c'est peut-être le seul endroit, le seul art où on se rend bien compte, où on tient bien les deux sens de la répétition, à savoir à la fois ressaisir quelque chose qui a déjà eu lieu, qui s'est déjà passé, que l'on a déjà appris, et en même temps anticiper, ce qui est une idée un petit peu difficile à comprendre, être dans l'idée d'une répétition tournée vers le futur.
Tout à fait. Je me demande même si la musique n'est pas le seul art pour lequel le principe de répétition n'est pas un principe... qu'on va dire subversif, mais presque naturel. Quand vous avez affaire à une répétition en littérature, alors évidemment le cas de la poésie avec le principe des rimes et des rythmes est un peu différent. Mais quand il s'agit de prose, imaginez une répétition à l'identique, non pas simplement une fois mais deux fois, d'une même phrase, d'un même fragment, voire simplement d'un seul mot, ça a quelque chose d'un peu étonnant, d'un peu expérimental. Au théâtre, vous allez avoir éventuellement certains collectifs, je pense à Tejestan, qui jouent sur ces principes de répétition, qu'elles soient improvisées ou écrites. On voit que ça a encore une fois une dimension un tout petit peu hermétique, en tout cas expérimentale. En musique, pas du tout. En musique, bizarrement, au contraire, c'est le fait de ne pas répéter qu'il y a quelque chose d'expérimental, qu'il y a quelque chose d'hermétique. Pour les raisons que j'ai dites et pour d'autres raisons sur lesquelles on va revenir. Justement, lorsque la musique sérielle, hein, je rappelle ce que c'est que la musique sérielle, on va dire en tout cas ce que c'est que la musique dodécaphonique, vous avez 12 sons à partir du 11e, vous retombez sur le 12e et vous avez ensuite une autre série. Donc, dans les 12 sons de la gamme, le principe de la musique dodécaphonique, c'est que vous n'allez jamais entendre un son sans avoir entendu au préalable les 11 autres. C'est donc un principe de refus de la répétition avec l'idée que chacune des notes doit avoir le même poids. On doit être entendu d'une certaine façon en même proportion. Alors, ce qui est étonnant, c'est que les compositeurs de cette musique ont voulu probablement... considérait que la répétition avait malgré tout des avantages lorsque il considérait qu'une musique ne devait pas être entendue simplement une fois et que si on la goûtait dès la première fois, c'était qu'elle n'était pas forcément de la meilleure qualité possible, mais qu'il fallait l'entendre une deuxième fois, une troisième fois. Or, il me semble que c'est un tout petit peu joué sur le sens de répétition dans ce cas-là. Évidemment, on a envie de dire... C'est bien quand on entend une musique une fois, c'est encore mieux quand on l'entend une deuxième fois. C'est d'ailleurs même un principe presque universel de la stylistique musicale. Quand un compositeur fait entendre une chose, vous dites la première fois c'est bien, la deuxième fois c'est encore mieux, et puis souvent la troisième fois il faut passer à autre chose. C'est un principe assez général de développement que vous trouvez dans la musique baroque, dans la musique de l'époque classique, dans la musique de l'époque romantique, parfois même au XXe siècle, même si les choses sont un peu compliquées, avec les principes sériels. Vous avez intérêt à serrer des notes et donc à faire en sorte qu'elles ne soient jamais entendues de la même façon, après un certain temps en tout cas, donc un certain refus de la répétition. Est-ce que ça marche? Est-ce que l'idée de résurgence de quelque chose de connu a un sens dans ce cas-là? Ça n'est pas certain. C'est une pièce que j'ai écrite en 99, donc au siècle dernier, on va dire, une œuvre de jeunesse qui s'appelle Dédale, qui est jouée ici par l'ensemble Contraste dirigé par Joanne Fargeau. Je crois qu'on peut l'entendre déjà à partir de maintenant, et ça va aller en s'amplifiant. C'est fondé sur une répétition d'un même thème, d'un même motif, qui est descendant, qu'on entend la première fois au violon, sur une certaine note, puis ensuite, à la faveur du développement, on va l'entendre transposé, c'est-à-dire jouer sur une autre note, et avec à chaque fois des tuilages, des canons, comme on dit techniquement, c'est-à-dire des formes de répétition, des dialogues entre les notes, entre les parties en l'occurrence, qui font que l'effet d'amplification que l'on obtient est, on va dire, comme exagéré par la présence de ces tuilages, de ces canons, qui rendent la chose encore plus insistante, jusqu'à plein de temps où on passe à autre chose, à un autre épisode.
Finalement, le principe de la répétition est le principe même de la subversion en musique. C'est être répétitif qui est subversif.
D'une certaine façon, c'est à la fois ce qui est naturel et ce qui est subversif. Alors, en réaction au sérialisme en particulier, vous avez une certaine école, la musique minimaliste, musique répétitive, on pourrait dire. Musique répétitive est probablement plus nette que musique minimaliste, parce que lorsque vous parlez de musique minimaliste, vous pouvez évoquer une musique qui serait celle, par exemple, d'Arvo Pärt, celle de Goretzky, un minimalisme, on va dire, de l'Est. Puis vous avez aussi un minimalisme de l'Ouest, qui est en général une musique plutôt répétitive, qui est fondée sur la répétition, parfois quasiment à l'identique, ou avec quelques modifications simplement, de même cellule, de même thème, donc sur un temps harmonique très long. Alors qu'est-ce que c'est que le temps harmonique? Ce n'est non pas l'harmonie, c'est, on va dire, le rythme harmonique, c'est la vitesse de transformation des harmonies. Donc non pas simplement le rythme, mais comment elles se transforment, si les harmonies se transforment vite ou pas. Et en général, dans cette musique répétitive, le rythme harmonique est infiniment lent et on a affaire à des mêmes harmonies qui se déroulent sur des plages sonores très longues. C'est par exemple le cas pour une œuvre assez emblématique de ce point de vue, qui est Music in 12 Parts de Philip Glass, musique assez expérimentale des années 70. Ici, malgré le fait qu'à partir de maintenant, la flûte fait entendre une espèce de contrepoint, de contre-champ par rapport à ce qu'on a, on a quelque chose d'assez radical. C'est une des pièces les plus radicales, les plus expérimentales de Phil Glass, puisque cette répétition qui est donnée à entendre, moyennant quelques modifications mais infimes, c'est quand même ce qui est porteur, ce qui est moteur dans cette pièce, qui est vraiment fondée sur ce principe-là, sur encore une fois des plages très longues, puisque cet extrait-là dure plus de 15 minutes. Donc quelque chose de long. Il faut savoir que nos oreilles occidentales sont parfois un peu gênées face à cette musique. Glass, Reich sont des compositeurs qui se sont beaucoup inspirés de musique extra-européenne. Reich, par exemple, a passé 6 mois au Ghana pour étudier la percussion. Glass a dit s'être inspiré beaucoup de musiques indiennes. Donc c'est vrai que pour nos oreilles, avoir affaire à une musique qui répète de façon aussi nette, de façon aussi radicale, de façon apparemment aussi provocatrice, eh bien, ça a quelque chose qui peut être curieux. D'ailleurs, vous avez des amateurs de musique, des mélomanes, qui détestent cette musique. Elle peut paraître hypnotisante et jouissive pour certains, et au contraire, horripilante pour d'autres. Donc, c'est vraiment une musique qui est assez clivante, on peut dire. Je trouve que cette musique, comme celle de Reich, et surtout celle de Reich, ont quelque chose de très étonnant dans notre façon de reconsidérer effectivement les principes du temps. En s'inscrivant aussi radicalement dans un temps long, elles nous font voir différemment toutes sortes de musiques. C'est pour ça que j'y vois un intérêt là encore quasiment pédagogique, c'est qu'elles nous ouvrent les oreilles d'une certaine façon.
Un intérêt finalement beaucoup plus expérimental en fait que musical, qu'artistique on pourrait dire. Est-ce que c'est pas le paradoxe de cette répétition musicale comme celle qu'on vient d'entendre chez Philip Glass, que finalement de faire en sorte qu'on s'affranchisse des habitudes d'écoute auxquelles on est habitué, comme vous le disiez, pour nos oreilles occidentales, tout en jouant sur la répétition. Finalement on a là un paradoxe qui est assez insupportable. On ne pourrait pas se passer de répétition, mais on ne supporte pas non plus de n'entendre que de la répétition. D'ailleurs, par exemple, la musique techno qu'on entend maintenant nous tape sur le système au bout de quelques minutes. Ça, c'est intéressant aussi de voir en fait qu'il y a une nuance, un savant dosage à avoir entre création, répétition, mais aussi entre répétition, répétition.
Tout à fait. Alors, ce qui se passe là aussi, c'est que ce qui est compliqué, c'est que cette musique, vous pouvez l'entendre évidemment intellectuellement, et probablement qu'il y a un certain aristocratisme de l'esprit à vouloir comme ça l'entendre pour ce qu'elle peut avoir effectivement d'un peu hermétique, et en même temps, elle est très corporelle. C'est-à-dire que l'un des principes de la répétition, c'est que normalement, lorsque elle est bien exploitée, cette répétition, vous la ressentez physiquement, presque corporellement. C'est une musique de trance, vous avez cité la techno, la techno s'est beaucoup inspirée des musiques répétitives, et peut-être aussi en retour, celles-ci sont inspirées de celles-là. Ce qui se passe, de toute façon, c'est qu'effectivement, vous avez quelque chose comme un phénomène hypnotique, qui d'ailleurs peut s'expliquer quasiment scientifiquement. J'ai le souvenir, je le mentionne dans une biographie que j'ai écrite de Ligeti, j'ai le souvenir d'un article d'Amandine Penel qui s'appelle Tic-tac obsédant dans Pour la science. J'en cite un extrait. Le cerveau anticiperait chaque nouveau son, économisant son énergie entre deux sons, mais serait mis en alerte en cas de perturbation imprévue. L'irrégularité temporelle semble bel et bien capter l'attention. Les sujets détectent mieux un son quand ils perturbent un rythme régulier. Ainsi, deux mécanismes se conjugueraient dans l'attention auditive, une augmentation de l'attention à chaque fois que l'on peut prévoir la survenue d'un événement sonore, et un renforcement de cette attention quand un événement perturbe ce que l'on avait anticipé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on a affaire à une trop grande régularité, comme c'est le cas pour une partie de cette Music in 12 Parts de Glass, alors on a l'impression qu'on reste dans la sphère de l'abstraction. C'est-à-dire que l'auditeur va avoir le corps qui va être pris par la pulsation et il n'est pas tout à fait à même de penser, de faire abstraction de ce qu'il est en train d'écouter. À l'instar probablement de certaines hypnoses qui induisent par leur monotonie les musiques techno et parfois les musiques répétitives, l'expérience éprouvée va être plutôt celle de la sensation à l'état pur. On est vraiment dans l'ordre de la sensation, quasiment plus de l'ordre du sentiment. Et ces musiques répétitives ont voulu réévaluer la sensation là où, au contraire, tout le romantisme qu'elle voulait nier était au contraire pour elle englué dans le sentiment. Mais il y a autre chose qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un dérèglement éventuellement qui va s'effectuer si jamais on n'a plus affaire à une pulsation qui se répète de façon absolument régulière, mais si on introduit une forme de perturbation, si le mécanisme se détraque, se dérègle, et alors l'auditeur va sortir d'une certaine façon de son autisme et ses facultés de représentation vont être réveillées. C'est un peu ce qui se passe quand vous avez affaire à des mécanismes qui se détraquent chez un compositeur comme Ligeti, dont je crois vous allez nous lire un extrait maintenant.
Tout à fait. J'ai fait moi-même l'expérience que des études strictes au sens des disciplines traditionnelles restent bel et bien utiles aujourd'hui. En effet, lorsqu'on reçoit une formation fondée sur les techniques de composition arrivées à leur maturité, et celles-ci ne peuvent être que traditionnelles, on en retire une utilité indirecte inestimable. Même si la technique en question ne peut plus être utilisée telle qu'elle. On acquiert en effet une aisance dans la logique de la pensée musicale, un sens et une capacité d'appréciation de la qualité compositionnelle. Si l'on apprend les mathématiques traditionnelles, ce n'est donc certainement pas se contenter de poursuivre la tradition, mais d'une part pour devenir en quelque sorte expert en cette matière, et d'autre part pour être en mesure d'élever au niveau de la musique antérieure ce que l'on élabore de nouveau. Carole Beffa, effectivement, j'allais lire un texte de Ligeti. C'est un compositeur qui vous est cher. C'est un compositeur aussi qui permet de penser ce savant dosage entre répétition qui serait trop collée à la répétition et quelque chose qui serait complètement de l'ordre de l'illusion, quelque chose qui serait à l'inverse de la répétition. C'est quelque chose, en fait, qu'il dit, en fait, on ne peut pas copier telle quelle une technique, mais il s'agit en fait de s'élever au niveau même de la musique antérieure, c'est-à-dire ne pas la copier, mais s'élever à son niveau. Comment comprendre en fait cette idée-là, à la fois de reprise, mais d'une reprise à côté en fait?
Alors, Ligeti, en fait, dans ce texte, parle de pédagogie, un petit peu avant, quelques paragraphes auparavant, il a essayé de donner des exemples d'exercices pédagogiques que lorsqu'il était professeur de composition, notamment à Hambourg, il donnait à ses étudiants. Et puis, il en est venu à l'idée que finalement, en réalité, la meilleure prépédotique à la composition, ce serait probablement le pastiche. Et il est là vraiment explicitement question de pastiche. Qu'est-ce à dire ? C'est-à-dire que il retrouve en fait une idée assez ancienne qui est que, qui pourrait faire vieille école d'une certaine façon, qui est que, eh bien, il n'y a pas de meilleure façon de se trouver soi-même que d'acquérir en fait, avant d'acquérir son art, une forme d'artisanat. Et pour cela, la pratique du pastiche, c'est-à-dire le fait d'écrire dans le style de, et lui-même proposer d'exercices d'écriture dans le style de Haydn, dans le style de Bach, avec le puissant contrepoint que cela peut supposer, tous ces exercices, dit-il, sont absolument formateurs. Donc, c'est paradoxal. L'idée, c'est que c'est en imitant ce qui a déjà été fait, c'est en répétant au plus près possible, sans, on va dire, sans la moindre marge, sans le moindre jeu possible par rapport à un modèle existant, c'est lorsque vous contentez de copier que vous êtes en réalité le plus à même de pouvoir être vous-même, de trouver votre identité stylistique. Et chez un compositeur dont l'identité stylistique était immense, parce que à travers les trois périodes qui caractérisent sa production musicale, Ligeti est un compositeur dont on reconnaît la musique après quelques mesures d'audition seulement, eh bien chez lui, il y a l'idée fondamentale que c'est en s'inspirant de ce qu'ont fait les autres, et même de s'en inspirant sous la forme d'une copie, comme ça pouvait être le cas pour certains peintres avec des ateliers, c'est sous cette forme-là simplement que vous acquérez un métier suffisant pour être vous-même. Il y a donc cette espèce de dialectique entre le choix et la détermination, entre l'hétéronomie et l'autonomie, pour lequel il tranche vraiment en faveur de cette liberté qui serait dictée, paradoxalement, par une capacité à singer, à copier les autres.
Comment on peut comprendre une distinction du coup entre l'exécution et l'interprétation ? Si je vous suis bien, et si en tout cas on suit Ligeti, l'exécution est déjà une manière de s'approprier une partition, un morceau. On imagine qu'un élève de qui découvre le piano va jouer au clair de la lune et va pouvoir, en fait, ne fera jamais un copier-coller de ce qui a déjà été fait, mais va produire en fait une nouvelle manière d'entendre ce morceau. Est-ce qu'on pourrait aller jusque-là ?
On peut éventuellement aller jusque-là. Alors, il se trouve que c'est un peu paradoxal, et je ne le prends pas tout à fait au sérieux quand il le dit, mais Ligeti dit aussi, si vous voulez bien jouer ma musique, contentez-vous de jouer ce qui est marqué, respectez scrupuleusement les notations sur la partition. C'est évidemment faux. Je pense qu'il en voulait à une certaine tendance, par exemple en musique contemporaine, un certain relâchement, une certaine désinvolture qu'il critiquait. C'est pour ça qu'il disait, jouer ce qui est noté, et ce sera déjà bien. Il y a évidemment une marge d'appréciation, et heureusement, sinon l'interprète ne serait qu'un pauvre exécutant, et on pourrait confier ces musiques à un ordinateur qui les interpréterait sans doute avec plus de précision encore qu'un humain. Or, ce n'est évidemment pas ce que veut Ligeti. C'est amusant que vous citiez Au clair de la lune, par exemple. Si vous prenez Au clair de la lune, alors qu'est-ce qui se passe ? Comme souvent pour des berceuses, hein, c'est pas tout à fait une berceuse, mais c'est une comptine avec ce qu'il peut y avoir d'ancestral, elle se situe dans un registre médian avec un ambitus qui n'est pas très large. Autrement dit, c'est dans un tunnel finalement assez étroit que les notes s'instaurent. Ce qui fait que, avec un phénomène de répétition assez net, puisque on a affaire à un réservoir de notes qui est finalement assez restreint, ici simplement trois notes. Vous allez en fait obtenir quelque chose qui, alors ça change effectivement dans le fragment après, quelque chose qui est de l'ordre du confort auditif, quelque chose qui d'une certaine façon va permettre à un enfant d'être bercé. C'est évidemment le principe réconfortant de la berceuse. Pas de berceuse sans principe de répétition, évidemment. Prenez Frère Jacques, autre type de berceuse, en tout cas qui est parfois aujourd'hui chantée comme berceuse pour calmer, endormir un enfant, un nourrisson. eh bien, le principe de répétition y est immense puisqu'il s'agit d'un canon strict où vous avez une partie qui va répondre à une autre, avec à chaque fois un petit décalage temporel, mais le tout a évidemment une puissance d'unité très grande. Là, on va dire que dans cette dialectique entre prévisibilité et imprévisibilité, le prévisible évidemment domine très largement.
Mais l'imprévisible ne reste jamais complètement décollé de ce prévisible. C'est ça aussi qui est intéressant. Vous avez parlé d'étroitesse dans la composition d'Au clair de la lune. Mais effectivement, il y a une restriction du champ des possibles avec la musique. La surprise, paradoxalement, n'apparaît que dans un champ des possibles qui est restreint.
Tout à fait. C'est du moins ce que les compositeurs de musique, on va dire tonale au sens très large, se disent. Parce que un compositeur tonal, au sens large encore une fois, va choisir ses notes dans un réservoir encore une fois assez restreint. C'est le principe des modes, hein. Vous allez avoir par exemple ce mode, c'est-à-dire qu'un réservoir de notes, une échelle, qui est assez restreint à partir duquel en restant sur une harmonie qui est à peu près la même, vous avez un principe d'hypnose qui peut se mettre en place. Alors, de temps en temps, vous pouvez aller chercher une note qui n'appartient pas tout à fait à ce réservoir pour varier les possibles. Mais au total, vous vous inscrivez quand même dans un réservoir de notes, donc dans une échelle de notes qui est assez limitée, qui est relativement réduite. Mais notez que ce principe de répétition, c'est une chose que l'on trouve même chez les tout-petits, chez les nouveau-nés, qui, à la limite du gazouillis, du babil, vont avoir tendance, quand ils produisent des sons articulés, à vouloir finalement commencer par répéter ce qui deviendra plus tard des phonèmes. C'est le papa, mama, la-la-la, qui va être, dans le langage bébé, si j'ose dire, une chose assez courante. De même, l'enfant, souvent, va s'efforcer de frapper avec une certaine régularité sur un bout de bois. Et cette régularité-là, c'est aussi quelque chose comme une résurgence du connu et comme une répétition embryonnaire, certes, mais une répétition quand même. Donc, il y a fort à parier que le principe de répétition nous est comme naturel. Et ce serait l'absence de répétition qui aurait quelque chose d'artificiel, tout au contraire.
La redite en musique est-elle une répétition stérile ? Il y a d'abord l'écho, qui est tout le contraire d'un pléonasme, d'un remplissage ou d'une facilité. Que la deuxième fois se reproduise ou non pianissimo, qu'elle ait lieu à l'octave supérieure ou inférieure, ou sur les mêmes degrés de l'échelle, la deuxième fois entoure d'amitié, de fraternité, de sympathie, le chant solitaire. Comme le poète, selon Pouchkine, fait écho à la nature et la nature au chant de l'homme, ainsi, la musique se fait écho à elle-même. La deuxième fois, la phrase musicale informe devient organique. La deuxième fois, l'arbitraire et l'insolite revêtent un sens plus profond. C'est qu'entre la première fois et la deuxième, un intervalle de temps s'est écoulé qui rend l'itération novatrice, qui fait de l'insistance une incantation, de la monotonie une magie, de la répétition stationnaire un progrès. C'est dans le discours et en prose que les répétitions sont proscrites, car le discours, soit qu'il développe un sens, soit qu'il expose ou démontre une thèse, va de l'avant par progrès dialectique et chemine tout droit sans se retourner ni revenir en arrière. Dans un développement significatif, ce qui est dit n'est plus à redire. En musique et en poésie, ce qui est dit reste à dire. À dire inlassablement et inépuisablement à redire. Se taire en ce domaine, sous prétexte que tout est dit, est un sophisme substantialiste et quantitatif. Inépuisable comme l'amour, infatigable comme la nature, inusable et toujours jeune comme le printemps, tel nous apparaît le charme qui inlassablement opère dans les rythmes de la poésie et, à l'infini, renaît en son éternelle fraîcheur.
Carole Beffa, on vient d'entendre, interprétée par Georges Clès, et on vous a aussi entendu jouer sur cette, sur ce texte donc de Jean Kalevitch, extrait de la musique et l'ineffable. Jean Kalevitch nous dit que la redite en musique n'est jamais répétition stérile. Vous êtes à la fois musicien, vous faites de l'improvisation, vous êtes compositeur. Comment se passe ce processus même de création? Comment vient l'idée en fait qui fait que l'on va créer quelque chose de nouveau qui soit à la fois quelque chose qui s'inscrive en fait dans un héritage et en même temps qui va s'en départir. Comment se fait ce est-ce qu'on a une, par exemple, une idée qui nous vient un peu ex nihilo et on va la répéter, la retravailler, ou à l'inverse, on va s'inspirer d'un thème, par exemple, déjà existant, pour après, en fait, s'en écarter?
Alors, je pense que un défenseur de la nouveauté à tout prix aurait probablement tort si il se levait un matin et s'il disait bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être à tout prix original. Ce serait à mon avis la meilleure façon de ne pas l'être. Ce serait la meilleure façon de faire quelque chose qui serait probablement de l'ordre du psittachisme, donc de la répétition à l'identique, un peu comme un perroquet, ou de la musique épigonale. D'une certaine façon, même on pourrait presque l'affirmer, dans la mesure où tout ce qui reste à faire s'inscrit finalement dans un nombre de possibilités finies, vous êtes condamné à vous répéter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avec tous les mots de la langue française dont vous disposez, quelle que soit la combinatoire que vous adoptez, eh bien, vous allez être obligé d'écrire la même chose. Et en réalité, le nombre de textes que l'on peut écrire quand on est écrivain, eh bien, c'est un nombre limité, à peu près de la même façon quand on est musicien. Alors, est-ce que ça doit nous conduire à être résolument négatif, résolument pessimiste? Je ne sais pas. Ce qui se passe, c'est que si vous prenez par exemple la période classique, à l'époque de Mozart, eh bien, vous avez affaire à un vocabulaire stylistique qui est déterminé, qui est assez bien établi. Mais ce qui fait que Mozart n'est pas Clementi, ce qui fait que Mozart n'est pas Salieri, c'est que à partir de ce substrat donné, de ce vocabulaire donné, qui est encore une fois donné à tout le monde, il a telle tournure un peu particulière, telle tournure finalement assez géniale, telle façon d'assembler les éléments de ce vocabulaire stylistique qui fait que c'est génial parce que c'est Mozart. Donc, il me semble que à partir encore une fois d'un matériau stylistique donné, on peut arriver à obtenir quelque chose par ce je ne sais quoi, pour parler précisément comme Jean Kalevitch, qui serait une certaine tournure un peu singulière, qui s'éloigne de l'ordinaire et s'éloigne en tout cas de ce que vos contemporains, à partir du même matériau stylistique donné, vont faire.
Mais ce qui est intéressant dans le texte de Jean Kalevitch, c'est que justement, il fait une comparaison entre la musique et le développement significatif. Un développement significatif, dit-il, c'est ce qui est dit et qui n'est plus à redire, alors qu'en musique et en poésie, ce qui est dit reste à dire inlassablement et inépuisablement. En musique, c'est comme le dit Jean Kalevitch, elle a cette spécificité d'être un dire qui ne s'épuise jamais, d'être un langage, mais qui justement ne peut jamais être dans la répétition pure à la manière du perroquet. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle ne peut pas se passer de répétition, et en même temps, elle ne tombe jamais, on a l'impression, dans l'écueil de la répétition que nous, on peut avoir lorsqu'on dit papa, maman, lorsqu'on apprend à parler, ou lorsqu'on va répéter des phrases à la suite de manière absurde.
Oui, alors ça me fait penser un tout petit peu, parce que la comparaison avec le discours est plus qu'implicite dans le texte de Jean Kalevitch, ça me fait penser à ce que l'on me dit de temps en temps lorsque j'improvise et qu'on me dit « mais finalement, est-ce que vous ne saviez pas déjà ce que vous allez improviser ? Dans quelle mesure est-ce que vous n'avez pas répété quelque chose qui était déjà préexistant ?» Je crois que ce n'est pas tout à fait prendre le problème du bon côté. Vous avez une certaine école de l'improvisation, une petite improvisation générative, rien à voir avec la linguistique générative de Chomsky, mais parce qu'elle est censée se générer à partir de quelques cellules simplement, qui, d'une certaine façon, voudrait faire l'apologie de la tabula rasa, de la table rase, c'est-à-dire du fait que, un peu conformément à certains principes avant-gardistes qui étaient courants dans une certaine musique des années 50, chez les compositeurs de l'école de Darmstadt notamment, eh bien, il faudrait se départir de tout ce que l'on a pu apprendre, intérioriser, mémoriser, pour faire quelque chose de radicalement neuf. Donc, surtout se couper de toute tradition et ne pas faire entendre une pulsation, une mélodie, une harmonie qui puisse faire penser à quelque chose qui aurait déjà été fait. Et puis vous avez une autre école, au contraire, qui considère qu'il n'est pas une mauvaise chose de se fonder sur le pastiche comme propédeutique, et qui...
Un peu comme Ligeti, en fait.
Alors, hein. Ligeti, en tout cas, à la fin de sa vie, en était assurément l'un des tenants. L'idée, ce serait, vous improvisez éventuellement en faisant comme ce qu'avait fait autant que possible Bach en son temps. Vous essayez d'improviser, on va dire, un rondo schubertien, vous essayez d'improviser une miniature à la Debussy, et puis, peu importe, ensuite, vous allez acquérir votre propre aptitude à improviser, peu importe que votre mémoire digitale fonctionne, peu importe que votre mémoire mentale fonctionne elle aussi. Autrement dit, si vous avez certains réflexes digitaux qui entrent en ligne de compte, et si il vous vient à l'esprit des choses qui ont déjà été données à entendre, peu importe, il faut que vous avanciez, et c'est finalement au fur et à mesure que vous allez vous découvrir votre véritable identité stylistique, une sorte de c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Ce que l'on voit, c'est, par exemple, si on me dit, mais là, est-ce que c'était vraiment improvisé? Bon, si vous avez quelqu'un comme un orateur qui doit faire un discours, évidemment qu'il peut avoir une idée préétablie de ce qu'il va faire, plus ou moins un ordre d'argumentation, par exemple, de son discours. Et puis surtout, son discours va reposer sur une langue qui est un socle commun à ses auditeurs et à lui-même. Pour autant, est-ce qu'il n'est pas en train d'improviser son discours? Bien sûr que si. Il va y avoir une part d'improvisation si est fixé un peu auparavant une partie de son discours, les articulations de base au moins, et pour autant, il va en improviser le prélude, il va en improviser éventuellement une conclusion, surtout les intermèdes, ce qui va lui permettre de passer d'une idée à l'autre. Bref, il me semble qu'il est tout aussi improvisateur que l'improvisateur qui, au piano, à partir d'une idée donnée, soit qu'il suive un film, s'il est en train d'accompagner un film muet, soit qu'il suive la lecture d'un texte, s'il est en train d'accompagner un texte, eh bien, il est effectivement là pour, s'inspirant des images qu'il voit ou des images mentales qu'il se fait dans son esprit en entendant ce texte, il est là en train, effectivement, de composer dans l'instant, c'est-à-dire d'improviser.
Ce qui est intéressant aussi, c'est effectivement ce rapport entre l'instant et ce que vous avez dit, à savoir au fur et à mesure. C'est-à-dire, il y a le temps de l'apprentissage, il y a le temps de la composition, il y a aussi le temps, par exemple, de la répétition avant de donner une représentation. Et il y a un mélange, en fait, entre cette fugacité et ce temps long. Comment, en fait, on peut partir de la fugacité et la mettre et mathématiser, en fait, cette fugacité de l'instant? Parce que la musique reste un art mathématique. Qui reste une transposition sur la partition d'idées qui nous sont venues de manière justement fugace et instantanée.
Oui, alors il peut y avoir plusieurs façons de le faire. Ce qui se passe aussi, c'est encore un sens de la répétition que l'on n'a pas encore tout à fait exploré, c'est l'idée que le XXe siècle est probablement par excellence le siècle de la répétition en musique, tout simplement par les moyens de reproduction musicaux qui sont mis en jeu. Phonographe, disque, CD,
MP3,
podcast, tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est évidemment une formidable possibilité d'entendre des musiques que sinon vous n'auriez jamais entendues. Alors, ça me fait penser à une chose, c'est-à-dire qu'il faut bien songer que avant cette ère de la reproduction quasi limitée, eh bien, les compositeurs se sentaient peut-être encore plus obligés d'introduire des formes de répétition et donc des reprises dans leur musique. À l'époque classique, au début du romantisme, songez à un Schubert par exemple. Donc c'est le début d'une de ses sonates pour piano. Elle est assez longue, mais pourtant Schubert y indique des reprises, c'est-à-dire il insiste sur le fait qu'il y ait résurgence du connu. Pourquoi ? Parce que probablement qu'à son époque, les auditeurs n'avaient aucune occasion auparavant d'entendre la musique qu'ils sont en train d'entendre. Vous avez quantité de redécouvertes. Ce qui fait que certains puristes aujourd'hui vont avoir tendance à dire « oui, mais ça ne va pas, l'interprète n'a pas fait les reprises », c'est-à-dire dans sa version qu'il donne au disque ou au concert, a préféré sauter ses reprises et ne pas reprendre. Je pense qu'il y a là un purisme un peu excessif, parce que on peut se dire qu'aujourd'hui, où les capacités, encore une fois, de reproduction du son et de la musique sont quasi infinies, eh bien, vous n'avez pas absolument besoin de faire entendre autant de fois tel fragment. Et donc, la reprise n'a plus la même nécessité absolue.
Mais ce qui est intéressant aussi, avant ces duplications en fait hein, de la musique par les CD, la phonographie, la radio, etc. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que parfois on va à un concert, on ne connaît pas le morceau qui va être joué, ou même on entend un morceau et on s'attend à ce que le morceau se passe de cette manière, se déroule de cette manière. Alors peut-être que l'on a intériorisé des structures, c'est peut-être le principe de la réminiscence aussi, comme le disait Adorno dans le texte tout au début. Mais néanmoins, comment ça se fait que la musique, en fait, nous projette en avant dans le temps, comme si, en fait, mais comme si, dans le même temps, elle répétait quelque chose que l'on connaissait déjà sans le savoir?
Alors, peut-être pour vous répondre, je vais demander à ce que soit diffusé un petit extrait qui, de près ou de loin, s'inspire des musiques répétitives. J'étais, au moment où je l'ai écrit, vraiment sous influence reichienne. C'est une pièce qu'on peut dire d'après de vieux cahiers, parce que l'idée m'est venue quand j'avais une vingtaine d'années, et j'ai ensuite essayé de reproduire cet extrait à ma façon, en y ajoutant quelques ingrédients. Donc je vais essayer de la commenter au fur et à mesure.
Quelle est cette musique?
Donc, si c'est bien ce que l'on entend, c'est par le quatuor Vendôme, le début de Feu d'artifice, troisième mouvement.
Et voilà, on l'entend.
Donc là, les principes de répétition sont très nets. C'est une répétition parfois quasiment à l'identique, hein, mais sur des mesures irrégulières. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une pulsation par 2, par 4, par 8, elle est souvent par 5, par 7, ce qui contribue à cet effet un peu chaloupé, comme si on avait affaire à une musique déhanchée, avec... encore une fois, cette dialectique entre le prévisible et l'imprévisible. Le prévisible, il est présent par la présence évidemment très forte de la répétition, mais l'imprévisible, c'est que vous passez d'une section à une autre avec le même principe thématique, simplement les voix vont avoir tendance d'une certaine façon à s'entremêler les unes avec les autres et à créer un phénomène de répétition qui va être, sur un temps relativement long, une répétition toujours tronquée. Donc répétition oui, mais répétition tronquée. Donc pas cette répétition qui peut avoir ce caractère hypnotique aussi fort que dans quantité de musique répétitive, minimaliste, des années 1970 notamment.
Ce qui est intéressant avec, et ce qui est même fou avec la musique, en fait, c'est cette manière dont elle sublime notre passion de la répétition, en fait, qui pourrait être une sorte de comportement un peu abêtissant, abruti. Et en fait, elle joue là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne se lasse pas d'écouter la même musique. On ne se lasse pas d'entendre les mêmes refrains. On se souvient même mieux des refrains qu'on chante avec ses amis que de l'anniversaire de ses parents, par exemple. C'est ce pouvoir de la musique à la fois de jouer sur l'émotion, la mémoire, mais aussi en fait sur ce qu'on pourrait dire, ce qu'on pourrait appeler en fait cette passion de la répétition.
Oui, passion de la répétition, tout à fait. Et encore une fois, vous avez raison, ça vaut pour toutes les musiques. Hein. En jazz, c'est évidemment crucial. En jazz, on va aussi exposer éventuellement un thème qui peut être un standard parfois, et puis on va le réexposer ensuite après, et c'est ce qu'on appellera le chorus. C'est-à-dire que d'une certaine façon, toute musique n'est que le fait de décliner sous différentes modalités un même modèle. C'est une chose assez banale que je dis, mais ça vaut pour tout art où vous êtes dans une dialectique entre ce qui serait de l'ordre de l'un et ce qui serait au contraire de l'ordre du multiple. Si vous êtes dans la répétition à l'identique, le principe unitaire est fort, certes, et donc vous avez une perception global normalement de l'œuvre qui peut valoir, mais c'est probablement l'ennui qui risque de s'installer. C'est-à-dire que vous serez dans une répétition à l'identique qui va avoir quelque chose probablement d'un peu creux. Au contraire, si vous êtes dans une espèce de poussière d'éléments disparates, avec aucun principe de répétition ou presque, eh bien, vous allez avoir du mal à appréhender l'œuvre comme œuvre, à considérer son unité. C'est la multiplicité que vous allez avoir. Et étant strictement dans la multiplicité, ce n'est pas la monotonie ou l'ennui qui guette, mais c'est plutôt une espèce d'impression de chaos qui va guetter, ce qui n'est guère mieux. Alors, songez à certaines musiques qui utilisent la répétition, mais pour suggérer quelque chose d'angoissant, par exemple. Hein, si je répète une musique... Ici, je répète tantôt trois notes, tantôt quatre, tantôt cinq. Tout ça est nimbé de pédales. Et donc, j'essaye d'introduire une perturbation dans la régularité pour qu'il y ait évidemment une forme de dialectique entre irrégularité et régularité. Certaines musiques angoissantes l'ont bien compris. C'est aussi souvent la répétition qui va pouvoir créer du mystère, de l'angoisse. Ainsi, j'ai quelque chose comme... avec un glas qui se répète, mais avec des silences entre chaque répétition qui sont différents à chaque fois. Je peux créer une forme d'attente qui va être ou non satisfaite. Je continue sur ce principe de répétition en changeant de note. Et donc, jouant sur des phénomènes de répétition et de perturbation de cette répétition, je vais créer probablement de l'attente, voire de l'angoisse. Et ça, les compositeurs de musique de film l'ont évidemment bien compris.
Est-ce que, Carole Beffa, pour finir l'émission, vous pouvez nous créer un petit peu de joie à partir de la répétition ?
Ah, je vais essayer.
Un grand merci à vous, Carole Beffa. Merci de vous être prêtée au jeu et au piano pour clore cette semaine sur la répétition. Et puis je rappelle qu'on peut lire de vous « Comment parler de musique ». C'était votre leçon inaugurale au Collège de France. C'est disponible chez Fayard et coédité aussi au Collège de France. « Les coulisses de la création », c'est écrit avec votre ami et mathématicien Cédric Villani. C'est disponible chez Flammarion. Et puis on en a parlé, vous l'avez évoqué, apparaître le 23 mai chez Fayard, une biographie de Ligeti. Et quant à nous, chers auditeurs, eh bien on se retrouve demain pour les chemins du vendredi. Demain, c'est le philosophe, sinologue et helléniste François-Julien que j'aurai le plaisir de recevoir à l'occasion de la parution chez Gallimard de Vivre en existant, une nouvelle éthique. Et quant à vous, eh bien pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture. Vous y trouverez aussi toutes les références bibliographiques et musicales de l'émission. Rendez-vous aussi sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins. Et puis comme tous les jeudis, vite je le rappelle, c'est le partenariat avec Philosophie Magazine dont vous trouverez le tout nouveau numéro chez votre marchand de journaux au programme Nomades contre sédentaires, la nouvelle lutte des classes. Et puis aussi un entretien entre Michael Fossel et Jean-Louis Chrétien.